Parmi tous les contenus qu'on propose au sein des Denis, on a tous les mois une conférence, une table ronde où on reçoit des invités, des expertes, des experts qui développent des connaissances et nous éclairent sur une question tant d'actualité que de fond sur la transition écologique, sanitaire, sociale ou éthique. Pour celles et ceux qui commencent à nous connaître, à connaître Edeni, vous savez aussi que notre objectif dans tout ça, c'est d'aller toujours plus loin, de développer son esprit critique et éviter les fausses bonnes idées qui sont malheureusement si nombreuses, notamment à l'heure de l'infobésité et de tout ce qui est lié notamment justement au numérique et à Internet. Le but, ça va être de connaître un petit peu aussi peut-être les ordres de grandeur de nos marges d'action. Et pour ça, bah, rien ne vaut les échanges directs comme ce qu'on va faire ce soir et ce qu'on crée lors de nos formations et ateliers. Et du coup, ce mois-ci, ce soir, on a décidé de parler du numérique. Ça faisait un moment que ce sujet était dans les tiroirs et ça y est, on a réussi à trouver des personnes avec qui on allait échanger sur ce sujet. Donc le numérique, ben, ça prend beaucoup de place dans nos vies, dans nos sociétés actuelles. On l'utilise pour presque tout, pour se rencontrer, communiquer, calculer, acheter, vendre, partager ou même juste vivre en fait. Il est perçu pour beaucoup, la grande majorité, comme un grand, grand projet, progrès exceptionnel. Et une question se pose, et c'est celle à laquelle on va essayer de répondre, c'est même plusieurs, quel prix on est prêt à payer pour ce progrès, du fait de tout ce qu'on entend dernièrement, notamment lié au numérique, le sanitaire, l'éthique, la santé mentale également. Et aujourd'hui, on sait que le numérique est l'un des secteurs industriels qui pollue, qui détruit une partie de notre planète, de la biodiversité, entre la fabrication des matériels, les conditions de travail qu'on peut avoir à l'autre bout de la planète, l'extraction des matières, l'hébergement des données, toutes ces choses dont on va parler, le recyclage, qui, on le sait chez Edeni, et sûrement parmi vous, n'est pas forcément la meilleure des solutions. En gros, quels sont nos moyens aujourd'hui d'action par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un numérique qui soit responsable? Donc, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir avec Kevin Guérin, Sébastien Ortega et Anthony Le Serre, que je vais laisser se présenter juste après, tout de suite, si vous voulez bien. Donc, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui soit lié au numérique? Kevin, si tu veux démarrer.
Ok, ça marche. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc très rapidement, donc moi je suis diplômé d'informatique. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu de l'informatique. Et en fait, dès le début de ma carrière, je me suis un peu interrogé sur ces sujets de remplacer du matériel pour le remplacer parce qu'il y avait une nouvelle version Windows, parce qu'il y avait une nouvelle version logicielle et qu'il fallait toujours faire plus, plus, plus. Et donc remplacer le matériel. Et ce matériel finissait en décharge puisqu'à l'époque, les systèmes de recyclage il y a une vingtaine d'années n'existaient pas encore complètement ou n'étaient pas très bien connu. Il y a maintenant 4-5 ans, j'ai décidé d'en faire mon activité principale en me mettant à mon compte et d'accompagner les entreprises qui souhaitent avancer sur ces sujets, qui souhaitent poser des questions, qui souhaitent développer des choses. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé, enfin, en tout cas, j'ai commencé la réflexion autour de dire, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet un peu à grande échelle, un projet qui puisse permettre à chaque citoyen, à chaque personne technique ou non technique, venant de l'informatique ou pas, de pouvoir participer à cette solution numérique. Et on a créé en fait le Cyber World Cleanup Day, donc sur la base du World Cleanup Day, donc qui a lieu actuellement là cette semaine sur le ramassage des déchets sauvages dans la nature. Et en fait de repartir de cette philosophie en fait où chaque citoyen peut agir à son échelle, d'en faire quelque chose. Sur le numérique, et on a associé ce projet, donc le World Cleanup Day France, avec l'Institut du numérique responsable pour co-créer ce projet avec une première édition en 2020. La deuxième édition a eu lieu cette année et la troisième édition aura lieu en mars 2022, avec donc pour objectif principal de sensibiliser à l'empreinte environnementale du numérique, de contribuer de manière très directe et concrète à la réduction des espaces de stockage et ensuite de manière indirecte finalement de contribuer à allonger la durée de vie des matériels puisqu'on apprend à les entretenir en les nettoyant régulièrement et à contribuer finalement à changer ses habitudes en termes de transfert de données puisque si on apprend à mieux gérer ses mails, peut-être qu'on va moins en envoyer, si on en envoie moins, on impacte moins les réseaux Internet et autres.
Merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation. Je laisse Sébastien continuer.
Oui, avec plaisir. Ben, alors, du coup, moi, je suis développeur, finalement, voilà, c'est un peu mon profil. Et donc, grosso modo, j'ai passé 10 ans dans le monde du jeu vidéo, donc pour donner une grosse vision. Et en 2018, en fait, j'ai fait un virage engagé en créant un collectif qui s'appelle Metastrat. On est donc des développeurs, des designers et on travaille exclusivement sur des projets à impact. Donc, on fait de la sensibilisation, enfin, avec nos clients, on a fait de la sensibilisation, par exemple, sur le sexisme ordinaire, sur les environnements marins, toutes ces choses-là, sur la finance éthique, on a des sujets sur le zéro déchet, ce genre de choses. Et plus récemment, on a lancé, en fait, avec Metastrat, un projet de régie publicitaire qui se veut, du coup, éthique et responsable. Dans l'idée en fait de un peu revoir un peu ce monde-là, ce monde qui est un peu pas forcément pourri, mais où il y a des choses à faire, des choses un peu à améliorer, notamment sur la gestion de la vie privée et ce genre de choses. Voilà, si ça peut vous donner une image de ce que je fais et de qui je suis. Je vous laisse
Merci.
La parole.
Anthony, vas-y, oui.
Bonsoir à tous. Ouais, je suis Anthony. Le CERF, j'ai un passé de manager dans des entreprises de services du numérique j'ai eu il y a quelques années un changement de mode de vie et une remise en question de mon mode de vie qui a eu lieu et je me suis posé, du coup il y a beaucoup de choses qui ont changé, mode d'alimentation, mode de déplacement, voilà, et plein de choses qui ont changé dans ma vie et je me suis posé la question de l'impact environnemental d'abord. De mon métier en tant que vendeur de solutions numériques. J'ai pris conscience en rencontrant Frédéric Bordage aussi de l'empreinte environnementale beaucoup plus globale qu'à le numérique et d'autres externalités sociales, économiques qui ne sont pas à négliger. Et j'ai décidé de déjà prendre un temps pour décanter tout ça et reposer tout ça et de créer IT on Us, qui est un collectif de professionnels principalement localisés dans les Hauts-de-France, de professionnels du numérique, indépendants, salariés, TPE, PME, qui s'engagent à transformer les organisations et le numérique et les outils numériques qu'elles utilisent pour les rendre plus responsables. Voilà, et c'est avant tout un écosystème coopératif parce qu'on a beaucoup d'enjeux différents, comme vous commencez à le souligner, Kevin. Cette diversité d'enjeux demande une diversité de compétences. Voilà, et à titre personnel, je suis là en tant que bénévole du collectif greenIT.fr. J'ai cité Frédéric Bordage tout à l'heure. Et donc, on a plutôt des actions de plaidoyer public, d'aider à sensibiliser le grand public à qu'est-ce qu'est l'empreinte environnementale principalement, mais quels sont les impacts environnementaux, sociaux du numérique. Comprendre tout ça et des actions qui ne sont pas menées par moi, mais Frédéric Bordage, Thomas Lemaire, d'autres personnes, de sensibilisation et d'accompagnement des pouvoirs publics. Sur l'Assemblée nationale et le Sénat, certains du collectif ont aidé ces organes à décider et à prendre et à légiférer et à poser des premières lois, en espérant que ce soit que des premières lois.
Excellent, merci beaucoup Anthony. Effectivement, ça fait partie des sujets que je pense qu'on pourra aborder également lors de cette conférence, le côté vraiment impact sur le plus grand nombre via justement cet axe politique. Je tiens à préciser aujourd'hui que nous avons trois hommes ce soir sur le numérique je voudrais préciser qu'on a aussi beaucoup de femmes derrière ces problématiques-là qui n'étaient pas forcément d'une part disponibles, mais en tout cas, voilà, juste pour pour préciser que c'est une thématique qui, par ses clichés, rejoint souvent beaucoup d'hommes, mais que des femmes aussi sont derrière ces sujets-là. Je pense notamment à Florence Rodin, qui est dans la région de Montpellier, où on est Sébastien et moi, par exemple, ou Julie Orgelet, etc. Ce sont des personnes qui font beaucoup de choses dans ces sujets-là et que je vous invite à regarder au même titre que le greenit.fr. Et justement, je voudrais embrayer, mais de façon très succincte, sur un peu justement faire un rappel des ordres de grandeur, justement, de l'impact de la marche, on va dire, écologique du numérique. Qu'est-ce que l'empreinte du numérique, très rapidement, parce que je pense qu'on est face à des gens qui connaissent peut-être déjà ces chiffres, mais faire un petit rappel aujourd'hui de... Bah, qu'est-ce que ça impacte, le fameux sac à dos écologique, pour ceux notamment qui ont peut-être fait cette fameuse fresque du numérique qui commence à prendre un peu d'ampleur. Et peut-être que je demanderai ça à Anthony rapidement, à nous faire un tout petit rappel de par sa casquette Green IT, dont est beaucoup basée toutes ces études d'impact écologique du numérique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'intéresse à l'impact écologique du numérique? Qu'est-ce que ça représente justement?
Effectivement, ça fait le lien avec le titre du rassemblement de ce soir. Quel prix on paye? Et on a déjà l'impression qu'on est sur un outil, effectivement, et des services qui sont dématérialisés et virtuels. Commençons par rappeler que pour avoir un impact, il faut avoir une matérialité et exister. Et que si on prend le numérique en France, sur les 60 à 70 millions d'utilisateurs du numérique qu'on peut être, on représente avant tout 630 millions d'équipements et l'équivalent en poids de 700 tours Eiffel. Et du coup, c'est d'abord ça qui est intéressant de voir, parce qu'on peut parler plein de sujets différents d'un point de vue serviciel, mais... Pour impacter, il faut déjà avoir de la matière. Donc, il y a énormément de matière dans le numérique, matière qui est de plus en plus diffuse dans des objets connectés qui vont passer d'un ordre de 25 millions à 50 millions très rapidement. Voilà, il y a toute cette matérialité qui est importante. Et derrière, ça génère des impacts en termes évidemment de consommation d'énergie. Dans l'environnement, on préfère parler d'énergie primaire que de l'énergie finale, parce que c'est important de rappeler que l'électricité, on ne sait pas trop comment elle est produite et que le mix, que c'est mixé et que si ça vient d'un litre de pétrole, un kilo de charbon ou une heure d'ensoleillement, ça n'a pas du tout les mêmes impacts. Donc, on préfère parler de l'énergie primaire que de l'énergie finale. Si on veut regarder un petit peu ce que ça impacte en termes d'énergie au quotidien, dans le quotidien d'un Français, les besoins numériques représentent l'énergie qu'il faut pour alimenter un radiateur électrique, pardon, 2000 watts, donc un gros radiateur, hein, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui font 1000 watts et qui soient allumés toute la journée pendant 8 heures. Donc voilà, c'est l'équivalent de se chauffer pour toute la journée pour un Français, c'est les besoins numériques qui génère cet impact énergétique. Mais il n'y a pas que ça, il y a de l'eau. Hein. L'énergie en France, c'est avant tout de l'énergie nucléaire. Donc, un kilowattheure d'énergie en France, c'est 4 litres d'eau pour refroidir les centrales principalement. Et du coup, il y a une contribution au stress hydrique. Elle est avant tout liée à la fabrication des équipements des utilisateurs qu'à au refroidissement des centrales. Je prends un exemple qu'on connaît et qui se situe, enfin une source d'impact qu'on connaît et qui se situe en France. Par contre, si on regarde dans le monde, fabriquer un PC, c'est 2000 litres d'eau. Fabriquer un écran de 47 pouces, c'est 26 000 litres d'eau. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais 26 tonnes d'eau pour fabriquer un grand écran, c'est quand même assez impressionnant. Et on en vient à ce dont on parle beaucoup en ce moment, gaz à effet de serre et épuisement des ressources. Gaz à effet de serre et épuisement des ressources. Gaz à effet de serre, le numérique, c'est à peu près 4% des gaz à effet de serre mondiaux. On se met d'accord là-dessus entre tous les experts. C'est assez facile de l'évaluer, entre guillemets facile de l'évaluer aujourd'hui. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est principalement des gaz à effet de serre qui viennent également de la fabrication des équipements utilisateurs. Et je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'est une excavatrice qui creuse le sol à très haut rendement et débit, si vous me permettez l'expression. Mais pour récupérer 1 kg de cuivre, il faut 99 kg de terre creusée par des énormes grues avec des grosses pelles. Et du coup, un Français, par ses besoins numériques, va générer l'excavation de 200 kg de terre par jour. Voilà, pour parler d'un impact environnemental très, très significatif. Et ces machines sont alimentées avec des énergies fossiles qui génèrent énormément de gaz à effet de serre. Voilà, voilà pour avoir un petit tour d'horizon des impacts environnementaux du numérique qui, je le rappelle du coup en conclusion, viennent des deux tiers aux trois quarts, selon les impacts, de la fabrication des équipements utilisateurs.
Effectivement, merci, merci beaucoup Anthony. Donc c'est un peu des fois une information qui choque la plupart des personnes parce qu'on entend beaucoup, notamment bah, dans l'actualité, parler des stockages de données, de nos emails, etc. On y reviendra d'ailleurs. Et on ne se rend pas compte que finalement, peut-être que la démarche la plus écologique qu'on pourrait avoir, ce serait de conserver nos terminaux, nos téléphones, nos ordinateurs le plus longtemps possible. Or, aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire pour diverses raisons. On parle beaucoup bah, d'obsolescence, qu'elle soit programmée ou psychologique, et le fait que, ce dont on discutait d'ailleurs il y a quelques jours, le fait que quand on veut réparer un appareil, parfois ça revient plus cher que d'en acheter un neuf. Aujourd'hui, il y a une incohérence entre bah, ce qu'il est possible de faire au niveau achat, au niveau, on va dire, proposition commerciale pour le grand public versus la direction qu'on devrait prendre vers un fameux numérique responsable qui, encore une fois, on le répète, le but n'est pas de dire qu'on veut devenir donc des personnes sans plus aucun accès au numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont clairement on ne peut pas se passer, mais de trouver cet équilibre. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut arriver à ça entre les obsolescences, les propositions qu'on nous met devant toutes les publicités sans arrêt pour nous dire que notre appareil est trop lent, qu'il ne fonctionne pas bien, etc. Aujourd'hui, est-ce que Kevin ou Sébastien, vous voulez réagir sur un peu ces problématiques d'obsolescence et du dilemme un peu qu'un utilisateur bienveillant et respectueux de notre planète voudrait avoir.
C'est vrai que enfin, le sujet de l'obsolescence, c'est un sujet qui est assez complexe et sur lequel en fait, on est assez régulièrement confronté hein, au fait des gens, de personnes qui disent bah, « moi, j'aimerais bien garder mon téléphone plus longtemps, j'aimerais bien garder mon PC plus longtemps, mais je suis contraint par la nouvelle mise à jour de Microsoft ou contraint par l'espace de stockage de mon téléphone, même si ça commence à évoluer. » Donc, on va avoir cette limite un peu physique de certains matériels. Pour autant, quand on commence à regarder un peu les alternatives, hein, que ça soit sur potentiellement des logiciels type, enfin, ou des systèmes d'exploitation type Linux qui permettent de fonctionner sur des machines un peu plus âgées, si on fait le choix d'un bon matériel au départ, permettent aussi de garder un peu plus longtemps le sujet. Et puis après, il y a des gros travaux qui sont faits notamment par l'association HOP, donc Halte à l'obsolescence programmée, pour faire évoluer les lois sur ces sujets et faire en sorte que bah, on puisse conserver nos appareils le plus longtemps possible. Et il est vrai que en plus là notamment, enfin il y a un article qui est sorti la semaine dernière en Allemagne, ils sont en train de travailler sur un projet de loi pour que les matériels soient réparables au moins 7 ans. Ce qui serait déjà un gros effort, sachant qu'aujourd'hui, les téléphones ont, en France, les smartphones ont un âge moyen de renouvellement tous les 18 à 24 mois. C'est plutôt une tendance qui est en hausse, qui est plutôt une bonne chose, mais qui reste très faible par rapport à ce qu'il faudrait d'un point de vue impact écologique.
Merci Kevin. Effectivement, ça, c'est des choses qui nous donnent espoir, un peu comme ce qu'essaye de faire côté Green IT, donc tous ces projets un peu de loi. On a l'impression que ça va beaucoup aider justement les individus qui sont là à échelle individuelle et qui essaient de faire quelque chose. Dans le chat, on a quelques questions liées justement à la publicité et forcément, ça me fait penser à l'une des casquettes de Sébastien avec la bonne pub. Et justement, ça, c'est l'un des leviers aujourd'hui qui peut être très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'écologie, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas si nombreux à faire du numérique responsable, ou en tout cas à essayer d'éclairer les consciences sur ces sujets-là. Aujourd'hui, comment est-ce que les logiciels sont conçus, comment les sites web sont conçus, et comment on fait pour en parler, pour qu'un plus grand nombre sache que ça existe et qu'ils fassent appel justement à tous ces professionnels qui essayent de se regrouper, notamment avec des collectifs tels que Metastrat pour fournir ce genre de services. Sébastien, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que ça grimpe depuis que tu as créé Metastrat. Est-ce qu'il y a une demande qui est de plus en plus présente ou non?
Alors moi c'est un sentiment que j'ai. Après, peut-être que mon avis il est un peu biaisé, mais parce que en 2018, je suis parti un peu de zéro, je n'avais strictement aucun réseau. Enfin, je venais du jeu vidéo, donc je ne connaissais pas trop les acteurs qui étaient dans ce monde-là. Et du coup, je me suis créé un réseau. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un réseau qui est plus grand et plus dense, avec de plus en plus de personnes qui veulent avoir de l'impact. Donc, voilà, c'est peut-être biaisé, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que c'est le cas, qu'il y a de plus en plus de projets. À voir si c'est encore les algorithmes de Facebook, LinkedIn ou quoi que ce soit qui m'enferme un peu dans cette bulle. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit assez. Il y a pas mal de... Le simple fait que cette conférence existe aujourd'hui, je ne sais pas si c'était le cas il y a 10 ans, par exemple. Donc voilà, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place et c'est pas mal. Pour revenir en fait un peu sur le thème juste avant par rapport à l'obsolescence, finalement, je vais revenir dessus, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire, puisque en fait, c'est un peu à chacun d'être un peu responsable et de vouloir... Moi, professionnellement, là, je ne peux rien faire, mais par contre, je peux, à un titre individuel, essayer de acheter, par exemple, un téléphone d'occasion ou acheter du matériel d'occasion. Il y a des sites qui font ça, que ce soit Back Market ou Smart, par exemple, avec 3A, qui sont à Montpellier aussi. Donc voilà, enfin, Montpellier, nos petits villages à côté. Et, donc voilà, c'est toutes des initiatives, en fait, qu'il faut connaître si on veut limiter son impact. Et pour ce qui est de la publicité, comment faire en sorte comment limiter son impact? Alors nous, le virage qu'on prend un peu là-dessus sur la publicité, c'est de se dire qu'on veut faire la publicité, parce qu'en fait, toutes les sociétés en fait, qu'on rencontre justement qui veulent avoir de l'impact ont tous ce besoin de se faire connaître, parce qu'en fait, apporter une solution engagée, créer une solution engagée, c'est bien, mais si personne ne la connaît, ça ne va servir à rien. Donc il y a toujours ce besoin qui est là et donc nous le volet c'est en fait de faire de la promotion exclusivement de projets engagés. Justement, on dit stop en fait à tout ce qui n'est pas, en fait tout ce qui ne répond pas à un des 17 objectifs de développement durable, on lui ferme la porte concrètement et du coup on va pas faire sa promo. Donc voilà, c'est vraiment un point très important et c'est comme ça qu'on veut limiter notre impact sur le numérique en disant ok, on fait de la pub mais on la fait bien, on la fait sans tracer les données utilisateurs, pour des projets engagés. Il y a plein d'autres volets, mais j'en perds un peu mon français. Voilà.
Ok, merci beaucoup Sébastien. Effectivement, ouais, donc la publicité, là, on espère que ce projet-là va prendre de l'ampleur parce que comme c'était effectivement indiqué dans le chat, bah, la majorité finalement des personnes sont, elles, face à à 2000 publicités par jour, je crois que c'est le chiffre qu'on a sur Paris avec tout ce qu'on a dans les métros, etc. C'est quelque chose de... On s'en rend plus compte, en fait, aujourd'hui, et ça fait justement un peu un rappel avec tous ces... Tu les as cités, les algorithmes qui, aujourd'hui, font en sorte qu'on reste un petit peu dans cet entre-soi quand on regarde un fil d'actualité sur les réseaux sociaux, etc. Et on a cette impression que ça va mieux, que ça va vers le plus, que de plus en plus de personnes sont sensibilisées, en tout cas de notre côté. Je pense que c'est le cas. En revanche, aujourd'hui, bah, on a quand même toujours cette grande accélération du numérique. Quand on va dans les établissements, Chaque étudiant aujourd'hui va avoir un iPad, mais aussi un ordinateur, et se pose la question de est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'il pourrait y avoir une mutualisation peut-être? Est-ce qu'il pourrait y avoir une réparabilité? Donc aujourd'hui, les établissements, ils font aussi, pour ne parler que d'eux, de leur mieux. Dans les entreprises aussi, je pense que vous êtes aussi, pour la plupart, aujourd'hui présents, ou ceux qui nous écouteront, donc peut-être salariés, avec un matériel informatique. Il y a beaucoup de choses qui essayent de se mettre en place, mais beaucoup d'entreprises sont encore pas forcément au fait du ramener son propre matériel et dans ce cas-là, aider à le faire réparer. Tout ce genre d'initiatives qui restent encore peut-être à faire. Et je vais revenir un petit peu sur le côté un peu, on va dire, santé éthique, le côté vraiment santé mentale, en fait, du numérique. Aujourd'hui, on a cette impression vraiment de plus pouvoir du tout s'en passer. On ne fait plus rien sans ça. Et ça omnibule un petit peu, justement, juste nos neurones tout le temps, toute la journée. Ça passe notamment effectivement par les quinzaines de newsletters qu'on peut recevoir, toutes les photos, le fait qu'aujourd'hui, bah oui, une vidéo, ça va mieux fonctionner qu'un texte. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'informations par jour. C'est là peut-être aussi où le clean-up, le Cyber World Cleanup Day va avoir cet impact de sensibilisation, OK, c'est pas le fait peut-être de vider sa boîte mail qui va révolutionner, mais en même temps, on a vu qu'on avait tous que sur Terre, on avait des milliards d'équipements, multiplier tous ces mails par personne. Voilà, quel impact aujourd'hui, peut-être que vous avez pu le mesurer d'ailleurs, Kevin, au niveau du World Cleanup Day, et que tu peux nous en parler un petit peu.
C'est ça. Donc, en fait, l'enjeu du projet, comme je le disais en introduction, c'est de pouvoir adresser finalement tous les citoyens, quel que soit leur niveau de technicité en informatique, et de pouvoir agir simplement et concrètement finalement sur un jour J. On est conscient que le sujet principal, c'est le matériel. A priori, on n'est pas censé remplacer son matériel tous les jours. Donc, en fait, c'était une piste d'action, mais a priori, pas la bonne. Dire conserver son matériel, oh, très bien, mais comment est-ce qu'on le mesure sur un délai extrêmement court, c'est-à-dire une journée ou une semaine, ce qui est très, très compliqué, hein, c'est plutôt à l'échelle du mois, voire plutôt de l'année, idéalement. Donc, en fait, on a tourner notre projet autour du nettoyage des données, puisque du coup, ça, c'est accessible par tout le monde. À partir du moment où on a un appareil numérique, finalement, on a des données, quelles qu'elles soient. Et donc, l'enjeu, c'était justement de dire, OK, par ce canal-là, sous ce prétexte-là de nettoyer ces données, comment est-ce qu'on peut amener d'autres sujets, notamment sur les sujets environnementaux du numérique, sur l'impact de la fabrication du matériel, sur l'impact de la consommation d'énergie, et ainsi de suite. Donc, en fait, sur ce projet, on a une phase de sensibilisation. Donc, en fait, les personnes qui participent à ce projet sont invitées, finalement, à faire une sorte de réunion d'équipe, de faire une forme de team building, de faire une petite phase de sensibilisation sur 10 minutes, un quart d'heure. L'idée, c'est pas de faire une formation sur le sujet, mais juste d'aborder le sujet pour essayer de commencer à avoir quelques déclics, de le faire ensemble plutôt que de chacun derrière son écran, parce qu'on passe déjà suffisamment de temps seul derrière son écran. Et là, l'idée, c'est d'essayer de le faire ensemble pour pouvoir en fait avoir un petit esprit convivial autour de cet événement, de pouvoir potentiellement s'entraider. Il y a peut-être des personnes qui vont mieux maîtriser le nettoyage des fichiers, des mails et des réseaux sociaux, qui vont pouvoir s'entraider. Donc, de finalement de le faire ensemble va pouvoir amener un peu ce côté convivial. Et puis, l'enjeu, c'est finalement d'essayer de créer le déclic pour commencer à agir concrètement. Concrètement, en fait, c'est tout simplement en appuyant sur le bouton supprimer. À partir du moment où on appuie sur le bouton supprimer, bah, du coup, on a commencé à réduire son impact environnemental. Alors certes, si on supprime un mail de 1 kilo, c'est juste anecdotique dans ce qu'il faudrait faire pour l'enjeu du numérique. Pour autant, l'action, elle est faite et l'idée, c'est que peut-être ce déclic de 1 kilo supprimé bah, va générer potentiellement toute une réflexion sur « je garde mon matériel le plus longtemps ». En tout cas, c'est ce qu'on espère au travers de ce projet, c'est que finalement, ce prétexte de nettoyage des données permet de passer à l'action concrètement, mais permet surtout d'engager la réflexion sur ce sujet et d'adresser des publics qu'on n'aurait pas touchés autrement si on parle de serveurs, si on parle de data center, toutes les personnes sont loin de ce sujet. Et puis, le dernier enjeu, bah, c'est finalement aussi de prendre conscience qu'il faut mesurer son impact, qu'il faut mesurer le travail qu'on fournit. Puis aussi, c'est aussi une satisfaction de savoir ce qu'on a supprimé. Et donc là, sur les éditions précédentes, sur l'édition 2021, par exemple, on a à peu près 40 000 personnes recensés qui ont participé au projet. Alors, certaines ont supprimé un mail, d'autres ont supprimé peut-être des dizaines ou voire des centaines. On n'a pas forcément le fait de calcul par rapport à ça. Le calcul qu'on a fait, c'est que on a supprimé l'équivalent de 4 gigas par personne sur ces 40 000 personnes recensées qui ont participé. Et on estime que du coup, potentiellement, il y aurait peut-être le double de personnes qui ont participé, mais on n'a pas les chiffres exacts. Après, ça serait de l'extrapolation. Mais déjà, c'est quelques dizaines de terras, voire peut-être centaines de terras de données qui ont été supprimées au cours de l'édition 2021. Et on espère faire mieux en 2022.
Ce qui est top, je me permets, ce qui est top avec cette initiative, je trouve le Cyber Working Update que je ne connaissais pas, hein, mais que je découvre, je connaissais la version en vrai. Mais en fait, ce genre d'événement permet en fait de mettre en lumière en fait les actions qu'on peut faire, mais aussi en fait de sensibiliser. Bon, tu le dis en fait, mais clairement le fait de faire ça sur un événement, la presse va le prendre en main et en parler, en diffuser, et ça va sensibiliser d'autres personnes de plus en plus. Donc, je pense que c'est quelque chose que effectivement vous pouvez pas mesurer en fait, mais vous avez vraiment un impact en plus indirect sur la suite. Enfin, c'est un premier pas peut-être pour certains, pour qui va les amener en fait à faire un premier nettoyage de leur ordinateur et puis se dire aussi, ah bah ouais, mais il y a ça, mais il y a aussi tout ce que je peux faire à côté, quoi. Donc ouais, c'est vraiment top. Je veux dire bravo, quoi.
Exactement.
Sébastien, on cherche des bénévoles pour nous accompagner sur la communication.
Très bien.
Effectivement,
ouais. Je le relayerai.
Justement, on voit encore là l'importance de communiquer, de sensibiliser, d'étendre autour de soi un peu toutes ces initiatives, et c'est un peu le premier pas en fait qui fait foi et qui fait qu'on se lance, tout comme chez Edeni, justement, on va dire la porte d'entrée originelle, c'était un petit peu le zéro déchet, donc là c'est un peu l'équivalent version numérique, c'est une porte d'entrée pour vraiment ensuite aller approfondir ces sujets-là. On prend ce qui nous touche le plus proche possible, donc que ce soit notre téléphone ou là nos mails, on en reçoit des dizaines et des centaines par jour pour la plupart d'entre nous. Effectivement, on voit encore cette histoire de quantité, on ne se rend pas compte à l'échelle individuelle. Ok, c'est pas grand-chose, et en fait, multiplié par tous les utilisateurs qu'on est, et encore une fois, là, on a l'œil vraiment occidental, hein, parce qu'on sait très bien qu'il y a des pays dans lesquels ils n'ont pas du tout cette problématique de vider leur mail, ils vont plutôt avoir la problématique de recevoir nos décharges peut-être du numérique, et c'est là où on touche un peu le côté impact social et sanitaire, autre que l'addiction que ça peut nous amener, le numérique, mais le côté plus vraiment... vraiment, on va dire matériel, quoi.
Alors, pour rebondir sur ta dernière phrase, non seulement ils reçoivent nos déchets numériques, et en plus, ils font partie de la fracture numérique, puisqu'ils n'ont même pas accès à certains des services numériques qui pourraient leur être très utiles dans ces pays.
Exactement, oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi par ailleurs. Donc là, on a vraiment cet œil citadin occidental. On a la même chose dans certains endroits, même en France, hein, où on ne se rend pas compte, quand on est un Parisien ou une Parisienne, de la chance qu'on peut avoir. Et c'est ça aussi l'axe qu'on essaye de prendre avec Edeni, c'est ce côté, on a justement... accès à toutes ces choses-là, et on a donc la possibilité d'avoir un levier d'action dessus. Il y a une question intéressante qui a été posée dans le chat, mais on va continuer encore un petit peu sur ces sujets-là. Est-ce que peut-être, Anthony, tu veux nous parler un petit peu plus en profondeur du côté, et du coup peut-être Kevin aussi, le côté qu'est-ce que nous on peut faire en tant que citoyens, citoyennes, pour peut-être aider, ou quelqu'un qui voudrait se lancer sur ok, moi j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout nettoyé, mon ordinateur, mon téléphone, ça fait 10 ans que je l'ai, si je veux aller impacter au-delà le collectif, potentiellement au niveau politique, qu'est-ce que je peux faire, ou au niveau professionnel, peut-être on en parlera avec Sébastien ensuite.
On en a beaucoup parlé. L'allongement de la durée de vie des équipements est quand même le plus gros levier environnemental, et consommer moins d'équipements et moins de matière est quand même un énorme levier environnemental, et allonger sa durée de vie, c'est fondamental. Une grosse partie des impacts sont aussi à la fin de la vie de ces équipements. Et si on veut réfléchir à, une fois qu'on a allongé au maximum, et comment on va, entre guillemets, se débarrasser de tous les équipements dormants qu'on a dans nos tiroirs. Pour rappel, 11 à 15 équipements par Français, hein, c'est quand même assez énorme. Et 88% d'entre nous changent d'équipement alors qu'ils fonctionnent encore. On parlait d'obsolescence technologique tout à l'heure. Une fois qu'on a allongé au maximum ça, on va d'abord chercher à réutiliser, à changer les usages, peut-être à redonner l'équipement à quelqu'un qui n'a pas le même usage que nous, et lui donner une seconde vie. On parlait de différentes sources, de différentes possibilités à l'instant. Ensuite, on va chercher à réparer. Et enfin, on va chercher à recycler. Le recyclage, rappelons que c'est quand même assez illusoire entre guillemets aujourd'hui. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais on a 20% des métaux d'un smartphone qui sont recyclables. 80% des métaux ne le sont pas dans un smartphone. Du coup, ça vient en trois. C'est quand même mieux que de l'envoyer dans la nature, hein. On a parlé d'impact sur la biodiversité en début de diffusion. C'est quand même beaucoup mieux. Pour autant, ça vient en troisième option. Il y a un levier qui est fort, et on a tendance à avoir un mode de vie très entouré d'écrans. Éviter dans nos boulots les doubles écrans à la maison, les triples, quadruples, enfin tout ce qui est sur équipement au final, c'est quand même, alors on incite à avoir un mode de vie un peu plus sobre effectivement, que ce soit dans les usages des services, que ce soit dans la manière de s'équiper, que ce soit en entreprise, dans la manière de concevoir les services numériques, et de ne pas générer d'obsolescence matérielle lié à des logiciels et à des services mal conçus. À chaque type de personne, morale ou physique, son enjeu, mais les logiques sont dans la sobriété de manière générale. Ensuite, si on veut réfléchir sobriété, on parlait effectivement des mails tout à l'heure avec Kevin. Et c'est comme si je fais un parallèle avec Zero Waste, l'association, je me permets, hein, Kevin. J'ai une petite connaissance avec le fondateur aussi, Julien Pilette, un des cofondateurs de Zero Waste, qui est plutôt amical. Et donc, je me permets de faire un parallèle. Effectivement, on va ramasser des déchets dans la rue, on va ramasser des mégots de cigarettes. Ça va sensibiliser, on va sentir un impact de notre, on sent plutôt l'impact de notre mode de vie. Ça revient, entre guillemets, à faire une presse du numérique sur le terrain. Derrière, effectivement, et je pense que c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, si on comprend ça, on peut agir sur plein de leviers. Et on peut avoir un mode de vie beaucoup plus sobre. Est-ce que j'ai besoin d'une visio pour communiquer, ou est-ce que je peux faire un appel à 5 groupés pour communiquer avec 4-5 personnes? Le téléphone aujourd'hui, en mode communication normale, permet de joindre 5 appels en même temps. Il y a beaucoup de visios qui sont quand même couvertes avec moins de 5 participants. Est-ce qu'on a besoin de l'image? Pas toujours. C'est pareil, quand on regarde des vidéos en ligne, on peut baisser la qualité. Enfin, il y a toute cette logique de sobriété qui peut s'appliquer à l'échelle des individus. Ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'effectivement, on parlait d'obsolescence psychologique. Sans savoir trop la mesurer, l'obsolescence technique, comme je l'ai dit et j'ai commencé à introduire sur les entreprises, l'obsolescence servicielle au final, en sens de service numérique, et l'obsolescence du matériel vient beaucoup parce qu'on conçoit des services trop lourds et trop complexes. On a l'exemple du web avec des sites web qui sont en poids croissant x 20 pour les pages, en 20 ans x 115 pour les pages web. Entre 95 et 2015, et je pense qu'entre 2015 et 2020-21, on a encore fait x2, x3 bien facilement. Et donc, on a une conception qui est quand même de toujours plus lourde. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, en termes d'utilité, on est allé sur la Lune avec 70 kilos à la louche de mémoire et de ressources informatiques. Service rendu versus ressources consommées, y a quand même cette logique à adopter en entreprise aussi de sobriété dans sa numérisation et dans sa transformation numérique.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si Kevin, tu voulais réagir par rapport à ce que Anthony disait.
Plus pour compléter, en fait, puisque globalement, oui, ce sujet, ça va être la question de la sobriété. Donc, le nettoyage, entre guillemets, c'est peut-être la première étape, et puis ça facilite la prise de conscience. En fait, derrière, ce qu'il faut se poser comme question, c'est finalement, à partir du moment où on crée quelque chose, finalement, quel que soit le service numérique que l'on crée, que ce soit un document Word, un document PowerPoint, un service, un logiciel, un site web, finalement, c'est vraiment de se poser la question du besoin, savoir est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que finalement je ne peux pas le faire autrement, typiquement, enfin, l'histoire de la visio, est-ce que je ne peux pas juste faire un appel téléphonique. Donc, à partir du moment où on va créer quelque chose, c'est juste se poser sa question. Puis, si entre guillemets, on n'a pas le choix, ou c'est parce que c'est nécessaire ou jugé nécessaire, parce que c'est très subjectif, la notion de besoin, du coup, comment est-ce qu'on peut le faire avec le moins d'impact possible, typiquement, et ça, quel que soit finalement notre rôle ou notre niveau d'utilisation. Quand on crée un PowerPoint, ce que beaucoup de gens font, finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut compresser les images. Et moi, j'ai vu sur des présentations PowerPoint, diviser le poids de mon PowerPoint par 10 juste en appuyant sur le bouton « compresser les images » à la fin de ma présentation. Ce qui fait que si derrière, je le partage ou si je le convertis en PDF, ça me permet de finalement transmettre un document beaucoup plus léger que le document initial qui faisait quelques mégaoctets. Donc, en fait, se pose la question à partir du moment où on crée du contenu, à partir du moment où on crée un post sur Internet, est-ce que finalement, est-ce que ça va vraiment avoir une vraie valeur ajoutée? Est-ce que ça apporte quelque chose en plus, quoi?
Merci beaucoup. Ouais, exactement. Donc, j'allais faire un petit résumé. Et là, il y a une information intéressante que tu as mis dans le chat, Anthony. J'y reviendrai juste après. Donc, on voit que c'est quand même, l'action qu'on peut avoir en tant qu'individu, elle est multiple, en fait. C'est beaucoup de petites choses en a priori, mais qui multipliées par le nombre d'utilisateurs vont être beaucoup plus grandes. Et c'est un petit peu prendre du recul par rapport à nos utilisations, réfléchir un peu sur notre besoin. C'est un peu la base d'un peu toutes les actions individuelles au niveau écologie. Et vous avez émis, et notamment dans le chat, quelques petites astuces. Et j'aimerais parler du côté un peu le décalage de référentiel et que je trouve hyper passionnant, et notamment on l'a vu là sur la crise sanitaire, le fait qu'aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un, on le fait quasiment systématiquement par visioconférence, alors que finalement avant on fonctionnait par téléphone ou on faisait des rendez-vous en présentiel. Donc ça revient tout doucement là depuis cette rentrée, mais c'est vrai que c'est assez amusant de voir ce décalage de on va se voir en visioconférence, pourquoi on s'appellerait alors qu'auparavant ça se faisait. Effectivement, on a parlé dans le chat du fait de pouvoir avoir des appels à plusieurs qui fonctionnent très bien. Je me souviens, dans mon ancienne vie de salarié, on avait ce qu'on appelait des pieuvres en centre de table et on pouvait appeler donc plusieurs personnes. Enfin, voilà. Donc, ce genre de choses que Anthony nous montre à la caméra pour ceux qui nous écouteront. Et effectivement, enfin, voilà, vraiment prendre du recul. En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement s'appeler, revoir un peu toutes nos utilisations, et ce chiffre qui est très intéressant, du coup, de simplement l'impact Wi-Fi versus la 4G sur nos téléphones. Donc là, Anthony nous dit dans le chat 20 fois plus quand on utilise la 4G que le Wi-Fi. Donc voilà, c'est des petites informations comme ça dont on n'a pas forcément confiance, et qu'on vous invite à aller creuser, qui sont parmi les contenus de Edeni aussi, et le Green IT, et le World Cleanup Day aussi, qui ressource pas mal de références. On vous invite vraiment à creuser là-dessus. Il est 19h bientôt 30. Comme on avait pris un petit peu de retard, je pense qu'on va commencer un petit peu peut-être les questions que vous auriez posées dans le public ou que vous souhaiteriez poser maintenant dans le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions et autrement, on continuera quelques minutes et avant de clôturer.
J'ai vu une question à laquelle je pense pouvoir répondre. Je
ouais.
pensais pour le faire tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui s'est nommé Pain, qui demande en fait comment trouver un boulot en tant que développeur dans une mission, enfin dans une startup à impact, par exemple. Tout dépend. Enfin, alors moi, je suis freelance et du coup, c'est peut-être pas ce que tu recherches, mais en tout cas, si tu cherches un travail de salarié, il y a l'association qui s'appelle Move Impact France, en fait, qui réunit du coup pas mal d'adhérents, en fait, où tu vas pouvoir trouver en fait toutes les startups, en fait, où tu vas pouvoir potentiellement postuler. Metastrat en fait partie. Il y a le site OI Mature Planet, par exemple. Et puis il y a certainement d'autres en fait qui sont spécialisés dans l'impact. Voilà. Après, tout dépend un peu ce que tu cherches, du salariat, du freelance, quoi, tout ça.
Sur le sujet très très vite, et je redonne vite la main à Corinne, tu peux regarder côté de Latitude, qui est une association au Tech for Good et qui va connaître plein de boîtes sur lesquelles ils s'engagent, avec lesquelles ils s'engagent. Et voilà, Latitude, association Latitude Tech for Good, et puis voilà. Ouais, merci. C'était ça. Du coup, ils connaissent plein de monde qui sont dans cet univers Tech for Good et qui font des choses bien.
Merci. On a quelqu'un de bien renseigné dans le chat qui nous envoie tout ça par écrit. On vous enverra aussi ça sur la version enregistrée du podcast, tous ces liens qui pourront vous être utiles. Du coup, tout à l'heure, je référençais un petit peu toutes les actions que vous pouvez avoir à un titre individuel. Et après, on vous encourage toujours, hein, si vous avez du temps libre, à vous engager dans tous ces collectifs, notamment peut-être le Green IT ou même le Shift Project, qui peut un peu agir sur ces sujets-là, notamment effectivement au niveau professionnel, au niveau éthique. Et aujourd'hui, voilà, si vous avez besoin de créer un site web, vous voulez sensibiliser autour de vous ou quoi que ce soit, voilà, vous avez aujourd'hui des moyens de faire appel à des professionnels qui savent se servir du numérique de façon responsable, justement, donc que vous pouvez appeler pour vos entreprises et dans votre vie personnelle. Et on parle également de Common, effectivement. Donc Common, et justement, tout à l'heure, je voulais en parler de tout ce qui était mutualisation on va dire location. Donc ça, c'est aussi une façon un peu de penser le numérique qui n'est pas forcément commune, de se dire, je vais louer mon téléphone, donc il ne m'appartiendra pas. Donc ce lien avec la propriété qui aujourd'hui n'est pas forcément évidente dans nos sociétés, de se dire, mon téléphone, en fait, et en plus, ça va être un Fairphone. Je vous invite à regarder le principe si vous ne le connaissez pas déjà, de se dire, je vais le louer, mais derrière, je vais avoir une ribambelle de services, de réparation, etc., de tout ce qui peut être pris en charge pour allonger sa durée de vie. Et ça, aujourd'hui, c'est une excellente alternative, mais il y a ce switch un petit peu de cognitif à réaliser sur le contact avec la propriété, d'un appareil électronique qui n'est pas forcément évidente. Je ne sais pas si l'un de vous, Kevin, Sébastien, Anthony, voulait un peu aborder ce sujet-là.
Non, c'est exactement ça. Après, il y a quand même un bémol sur la question de la location, où il faut quand même vérifier, entre guillemets, le prestataire qui fait de la location, puisque l'objectif de la location, et c'est ce que fait Common, et je suis client chez eux, donc j'utilise leur service, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont vraiment dans l'achat de matériel, dans un objectif de les faire durer le plus longtemps possible. Donc la location, elle a vraiment cet objectif de dire, si la personne ne veut plus du matériel, on le récupère, on le remet en état et on le reloue à quelqu'un. Donc il y a vraiment cette volonté. Des services de location de matériel, ça existe depuis très longtemps, notamment dans les entreprises. C'est ce qu'on appelle le leasing, ce qui n'est pas forcément une solution en soi, dans le sens où ces entreprises de leasing travaillent avant tout sur des sujets de rentabilité financière, et donc le matériel est loué pour 3 ans, et au bout de 3 ans on le récupère et alors on le jette ou on le remet dans des circuits, éventuellement dans le meilleur des cas on le remet dans des circuits secondaires, mais en tout cas, il y a vraiment, entre guillemets, contractuellement, au bout de 3 ans, il faut rendre le matériel. Et voilà, j'ai des clients qui, en fait, entre guillemets, sont en train d'arrêter le leasing, des gros clients, pour justement dire, on reprend la main et on reprend le contrôle sur notre matériel et on va essayer de le faire durer plus que 3 ans, ce qui aujourd'hui n'est techniquement pas possible en leasing. Donc la location, oui, à condition de le faire avec des bons prestataires.
Effectivement, ouais. Excellente remarque, tout le monde acquiesce. Effectivement, c'est un petit peu comme ce qu'on peut voir justement avec les leasings de voitures ou n'importe quelle location de voiture, où on est sur des prestataires de location qui en fait renouvellent systématiquement les parcs de produits et d'appareils, ce qui du coup revient effectivement au même que d'acheter du neuf ou à peu de choses près. Et c'est pas du tout l'objectif. Donc il y a vraiment ce besoin de l'utilisateur d'aller aussi chercher, et de l'autre côté les entreprises, bah, de prouver qu'ils sont vraiment dans une démarche de durabilité, d'économie de la fonctionnalité et non plus linéaire. Et ça aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qu'on imagine pour le numérique, puisqu'on a des choses qui sont faites dans des matériaux, des terres, ce qu'on appelle des terres rares, enfin des choses qui sont non pas rares, mais en tout cas qui sont difficiles humainement, qui ont un gros impact social et écologique pour aller extraire. Et derrière, on est sur des produits qui sont quasiment du consommable. Et ça, c'est vraiment quelque chose où, quand on a pris conscience de tous ces impacts, on peut difficilement se dire, OK, mon téléphone, ce n'est plus... Voilà, je vais le jeter demain, peu importe. Il y a vraiment ce besoin d'aller repenser le numérique comme un peu quelque chose de précieux qui nous aide à communiquer entre nous, à améliorer nos relations aussi. Donc, quelque chose qui est quand même vertueux en premier usage. Et de justement en prendre soin, un peu comme on prendrait soin de nous et de notre fameuse planète, comme on entend dire justement sur la plupart des médias un peu liés à l'écologie. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le chat? Ou d'autres points abordés, et sinon nous allons aussi peut-être clôturer.
J'aimerais bien rajouter quelque chose, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de matériel en fait, et un peu de sensibilisation aux actions individuelles, et du coup c'est pas forcément, on peut vite être découragé en fait à cause de ça, en se disant ok, je vais supprimer mes emails, mais ça va enlever un kilo et puis ça va pas faire grand chose. Pour autant, le rapport du GIEC, en fait, il nous dit clairement, là, le dernier, c'est chaque tonne compte, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter à supprimer même son petit email. Et puis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Du coup, ça, c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, justement, avec l'initiative du Cyber World Cleanup Day, c'est que c'est un premier pas qui nous amène à découvrir, en fait, tout ce qu'on peut faire. Voilà, et si jamais vous pensez que ce n'est pas assez et que vous voulez aller plus loin, moi... Mon avis, c'est un peu de vous interroger un peu justement ce que demandez pas, en fait, c'est comment dans mon travail, en fait, je peux avoir de l'impact. Est-ce que en allant discuter avec vos collègues, vous pouvez le faire, ou alors en faire bouger les choses en interne, en fait, c'est un bon moyen de faire évoluer votre entreprise là où vous êtes. Et si jamais c'est pas possible, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à raccrocher, à dire, voilà, moi, mes compétences, je ne vais pas les donner à ces personnes-là si elles ne veulent pas bouger. C'est en tout cas, moi, ce que j'ai voulu faire avec Metastrat, c'est-à-dire qu'en tant que développeur, j'ai un profil qui est quand même assez recherché, et du coup, je voulais mettre ces compétences au profit de choses qui ont du sens. Sachant que le numérique aussi peut, on parle de numérique responsable, mais du coup, le numérique peut avoir de l'impact, mais de l'impact positif aussi. Parce que concrètement, tu le disais en intro, mais voilà, le numérique était partout. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix, en fait. On est obligé un peu de faire avec, sauf si on veut aller dans une grotte, ce qui pourrait être un choix respectable. Mais sinon, voilà, moi, le parti pris est de dire, je veux travailler sur des sujets qui ont d'impact, qui vont sensibiliser, qui vont dire aux gens de manger moins de viande, qui vont, financer sur la finance, n'importe quoi. Tous ces sujets sur lesquels on peut bouger, en disant que on peut se servir des réseaux sociaux, de la pub et tout ça, en fait, pour toucher plus de monde. Voilà.
Merci beaucoup, Sébastien. On a du coup des questions un peu plus poussées qui sont apparues dans le chat depuis. Mais effectivement, on peut toujours agir, ça part toujours d'un individu. C'est un peu notre philosophie aussi côté Denis, c'est ce côté, peut-être qu'on peut avoir des actions collectives, mais ça part toujours d'une, deux, trois personnes, et on arrive à de grands mouvements. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont compétents pour répondre aux questions qui sont apparues dans le chat, je vous laisse prendre le lead. Il y a une très belle question aussi sur la résistance de la température justement à tous ces appareils du numérique qui, quand il fera 50 degrés, on peut se poser des questions. Vas-y, Anthony.
Je veux bien essayer de répondre à Olivier. sur lutter contre effectivement cette logique de volume de consommation de données. Et effectivement, on parlait de mutualisation, on parlait de performance, on est d'accord que, en fait, la logique, c'est de faire un lien entre la performance globale des entreprises, hein, et quand j'entends performance globale, j'entends les registres habituels de qualité, de productivité, de rentabilité. J'entends surtout des nouveaux registres, externalités, les effets sur les ressources externes de l'entreprise et les effets sur les ressources internes de l'entreprise. Et quand on comprendra qu'on peut tout concilier en sortant d'une logique de volume et en entrant dans une logique de performance d'usage pour les bénéficiaires des services des entreprises, pour les bénéficiaires de l'utilisation d'un produit et pas de sortir une quantité de vidéos, mais de bien faire passer un message de qualité, par exemple. On pourra tout concilier et associer des logiques économiques de performantes et de durabilité. Et voilà, mais il faut juste, je pense, et tu vois, c'est pas si technique, genre, enfin, si, c'est technique, mais c'est aussi sortir de modèles économiques et arriver dans des logiques orientées performance d'usage pour nos bénéficiaires. Et valoriser cette performance d'usage à quantité de ressources matérielles minimisées. Et donc, voilà, et si on conçoit, on associe tout ça, on peut être durable, on peut être performant. Il faut accepter que la rentabilité soit à peu près raisonnée aussi.
Merci beaucoup, Anthony. Je pense que si personne d'autre a d'éléments à rajouter, on va bientôt clôturer. Donc, effectivement, pour conclure assez rapidement, donc on a beaucoup de petites et plus grandes choses à faire vraiment à titre individuel et je vous encourage à vraiment en parler dans vos entreprises autour de vous. Ça va être le plus grand levier que vous pourrez avoir. Et comme le disait Sébastien, vous pouvez toujours planter des graines et aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. N'hésitez pas. En tout cas, voilà, on vous encourage à planter des graines, en tout cas, dans tous les cas, en amont. Merci beaucoup, Kevin, Sébastien, Anthony et toutes les personnes qui étaient là ce soir. On vous invite du coup à faire suite et à nous écouter derrière sur la version, on va dire, podcast de cette conférence ce soir, à vous inscrire aussi dans nos différents réseaux sociaux, hein, on n'y échappe pas, pour continuer d'être informé de façon qualitative, de vous inscrire à notre newsletter pour vous être informé tout simplement des prochaines conférences, en tout cas. Et merci encore, à très bientôt.